Bonjour et bienvenue dans l'émission Les Marches de la Foi. Au micro, Pascal Dupré. Avec nous aujourd'hui, Joël Molinario, professeur à l'Institut catholique de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Les technosciences sont déjà là. Les nanoprothèses, intégrées au corps humain, c'est plus de la science-fiction, ça, c'est déjà là, comme les cyborgs, mi-hommes, mi-robots. Qu'est-ce que ça irrigue notre quotidien? Comment vous pensez que ça va bouleverser notre vie?
Alors, je crois que comme tout être humain, ce qu'on appelle les technosciences, mais ça regroupe beaucoup de choses, nous concerne déjà à plus d'un titre. Et elle nous concerne d'abord au point de vue technologique, au point de vue de certaines de nos habitudes de communication, évidemment, mais aussi c'est des composantes médicales. Il y a beaucoup de questions qu'on nous pose pour savoir si on est opéré, par exemple, des yeux. Ben, on va nous demander, est-ce que vous voulez être opéré à 10 sur 10 ou à 12 sur 10? Oui, déjà, affecte par des choses tout à fait quotidiennes, mais aussi tout ce qui est réseau de communication, et puis évidemment ce qu'on appelle les biotechnologies qui nous affectent de plus en plus, vont nous concerner de plus en plus près. Et donc, je pense que nous sommes tous concernés, qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien, hein. Et l'une des composantes de cette révolution culturelle et économique et industrielle, c'est anthropologique assez considérable. Je crois que c'est ça une des données aussi qui vient avec ce développement industriel nouveau, quoi.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui va nous bouleverser profondément?
Alors oui, il y a plusieurs champs, mais qui affectent ce qu'on appelle les structures élémentaires de la compréhension de l'humain aujourd'hui. Hein, les grandes structures élémentaires qu'on appelle anthropologiques, aujourd'hui sont touchées. Le rapport homme-femme, on l'a vu dans des débats récents sociétaux, le rapport homme-animal, le rapport homme-nature, le lien entre les générations, la filiation, tout ça est bouleversé par à la fois des progrès technologiques et aussi des mutations culturelles et des conceptions éthiques nouvelles et des philosophies aussi parfaitement nouvelles. Et donc, dans le quotidien, des tas de questions se posent à nous, et notamment, est-ce que c'est bien d'augmenter les capacités de l'être humain? C'est ce qu'on appelle toutes les questions autour de l'homme augmenté. Alors, jusqu'ici, on parlait de l'homme augmenté un peu comme un produit de science-fiction, mais aujourd'hui, la question de l'homme augmenté se pose pour un certain nombre de personnes. Le cas prototype, on le connaît, c'est celui de l'athlète Oscar Pistorius, hein, cet athlète sud-américain qui est handicapé des deux jambes et qui a des lames qui lui permettent de courir. Et l'ergonomie est tellement perfectionnée de ces lames qu'il court plus vite que un très grand nombre d'athlètes qui n'ont pas de prothèses. Et voilà. Et donc c'est un exemple un peu prototype, mais peut dire que peut-être que les prothèses vont faire qu'on va pouvoir améliorer les capacités humaines.
Et en même temps, ces prothèses, elles peuvent nous être très utiles.
Et voilà. Alors voilà, c'est tout. Tout la question du discernement que maintenant nous avons à opérer, c'est que bien des progrès technologiques et technoscientifiques dans les biotechnologies, par exemple, sont d'abord un apport pour la santé, pour le combat de certaines pandémies. Il y a des résultats dans les biotechnologies, la bio-ingénierie, comme on dit, qui sont déjà sensibles pour combattre le sida, pour combattre le paludisme. Voilà. Mais en même temps, on travaille sur du vivant et on commence à penser ce qu'on appelle une biologie de synthèse, c'est-à-dire que biologie qui est capable de refaire des cellules endommagées, mais aussi de fabriquer du vivant qui n'existe nulle part.
Donc, ou modifier du vivant existant, comme j'ai lu qu'on envisageait, ou on fait déjà d'ailleurs, de la manipulation d'ADN et qu'on puisse avoir des hommes qui ont plusieurs géniteurs, on va dire, d'une certaine
voilà,
façon.
Voilà, par exemple, voilà. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est toujours présenté pour éviter une maladie génétique, par exemple. Hein. C'est pour présenter, pour faire que on va combattre des maladies. Donc c'est d'abord dans un point de vue très positif, et puis ensuite on a à discerner, mais quand on fait ça, on commence à fabriquer du vivant, mais qu'est-ce que ça veut dire être humain quand on peut imaginer que, comme font certains labos en Chine, hein, de par exemple, créer des souris parfaitement chimériques, c'est-à-dire qui n'ont pas de cellules qui correspondent à la réalité naturelle. Vous voyez ? Donc, à la fois, ces progrès sont évidents en termes de santé, et en même temps, ils disent quelque chose, ils nous interpellent de façon très profonde sur ce que c'est qu'être humain ou ne pas être humain. Donc, est-ce que être humain, c'est recevoir un don de vie ou être humain, est-ce fabriquer ce que l'on souhaite pour être utile, pour être plus fort, plus riche, plus beau, quoi. Voilà, donc ça c'est des questions qui nous affectent maintenant de façon assez quotidienne, c'est plus seulement dans la science-fiction. Il y a 20-30 ans, on trouvait ça dans la science-fiction, et voilà, Adolf Huxley est son meilleur des mondes, etc. Mais aujourd'hui, les questions se posent de façon industrielle, de façon très précise, dans la médecine.
Alors, oui, j'entends ce que vous nous dites, en même temps du côté positif et en même temps de tous les risques que ça comporte. Voilà. Dans ce contexte, que peut vous apporter la foi chrétienne ? Quelles ressources ça peut donner dans ces réflexions ?
Alors, la première chose, c'est que je crois que les chrétiens doivent prendre conscience de ce phénomène, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le trouble dans la définition de l'humain, hein, et qu'il n'y a plus de consensus anthropologique dans nos sociétés. Je crois que ça, c'est vraiment la première chose qu'on doit prendre, à laquelle on doit faire attention aujourd'hui, c'est que, je dirais, dans les années 60, quelqu'un comme Paul VI, le pape Paul VI, proclamait à la tribune de l'ONU son fameux l'Église est experte en humanité. Hein, et le Concile Vatican II avait dit on va rejoindre les hommes de bonne volonté. L'Évangile rejoint tous les hommes de bonne volonté. Il y avait dans ce principe l'idée qu'il y avait un consensus humaniste, hein, et même un écrivain communiste comme Aragon à la même époque, exactement la même époque que Paul VI, quand il proclamait cela à la tribune de l'ONU, disait tout peut changer dans le monde, mais pas l'homme et la femme. Donc il y avait, on va dire, une sorte de consensus humaniste possible. On disait, les hommes de bonne volonté, finalement, s'ils écoutent vraiment l'Évangile, ils vont être chrétiens, quoi. Voilà la conviction de Paul VI. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre conscience de ce foncière pluralisme des approches anthropologiques. C'est-à-dire, dire ce que c'est qu'un être humain, aujourd'hui, on ne le sait plus, ou alors on le dit de manière radicalement plurielle. Et notamment l'une des versions de cette pluralité anthropologique, c'est de dire que l'homme peut se fabriquer lui-même. Il n'est pas créé, il se fabrique. Donc là, les chrétiens ont à dire beaucoup de choses. On a à dire d'abord que l'Évangile livre des manières de devenir humain dans la tradition chrétienne, dans la tradition chrétienne, on a cet aphorisme que je trouve très, très, très fort, qui dit « Dieu a créé l'homme au minimum ». Et s'il a créé l'homme au minimum, il a créé l'homme avec ses capacités de devenir pleinement humain et de devenir pleinement humain à l'image de Dieu. Et c'est à l'écoute de l'Évangile que l'homme peut trouver une manière de devenir humain. Et je crois que ce qu'ont à faire les chrétiens aujourd'hui, c'est de montrer en quoi l'Évangile nous aide à faire du bien, et surtout à nous humaniser. Donc il y a une manière singulière aujourd'hui, elle n'est plus consensuelle, qui fait que les chrétiens ont à expliquer, à montrer comment leur pratique, leur manière de vivre chrétienne, eh bien c'est une manière de devenir pleinement homme, et que c'est une bonne manière de devenir pleinement homme.
C'est ce que vous dites, si j'entends bien, c'est pas simplement de le dire, mais de le faire.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques chrétiennes d'humanisation. On connaît plein d'exemples. Les soins palliatifs, ben voilà, il y a soit on dit on va expliquer parce que dès qu'on commence à devenir vieux, vaut mieux expliquer plutôt que de se voir vieillir. Ou alors on dit oui, mais il y a une manière humaine de vieillir qui est celle d'accompagner la mort dans les soins palliatifs. Ça c'est je veux dire une invention chrétienne. C'est une invention chrétienne qui dit, ben voilà, il y a des pratiques d'humanisation. Voilà ce que, être humain, ça peut être ça, accompagner la mort de quelqu'un. Donc, et voir que, eh bien, même dans la vieillesse, dans l'extrême vieillesse, il y a de la dignité. Par exemple, une notion comme celle de dignité ne fait plus consensus aujourd'hui. Vous pouvez imaginer, il y a 50 ans, peut-être 100 ans, qu'un vieillard très affaibli pouvait avoir de la dignité. Aujourd'hui, c'est une erreur. Et les transhumanistes pensent que la vieillesse est une erreur, ainsi que la mort, et donc il faut combattre la mort et la vieillesse par tous les moyens. Et, ouais. donc la finitude n'est pas une erreur de l'humanité qu'il faut combattre.
Donc devant ce pluralisme, effectivement, les chrétiens ont quelque chose à dire et à faire, si je vous retiens ce que vous dites.
Oui.
Vous allez venir
ils doivent prendre conscience de l'humanité que l'Évangile possède et la capacité que l'Évangile nous donne de devenir humain.
Notre émission touche à sa fin. Je vous remercie de cet entretien. Vous viendrez à Chartres le 19 janvier à la Visitation, l'après-midi. Nous pourrons poursuivre cet entretien. Au revoir, chers auditeurs, et merci à Simon qui a assuré la technique, et à bientôt sur Radio Grand Ciel.